t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi et bienvenue dans ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs consacrés sur les phénomènes Kuluna, des jeunes délinquants qui opèrent à travers la ville de Kinshasa ou encore sur l'ensemble du territoire national. Alors la semaine dernière, plusieurs jeunes délinquants, communément appelés Kuluna, habitants du camp Mbaki, ex-Kamfaza, dans la commune de Barumbu, ont été auteurs des actes de vandalisme selon le communiqué, le tout dernier communiqué de la police nationale. Alors le commissaire provincial et commandant de la ville de Kinshasa, Kasongo Kitenge Silvano, affirme que ces jeunes ont été notamment appuyés par leur père armé dans cette sale besogne, causant ainsi des dégâts matériels et humains. Certains observateurs relancent les débats sur la police du gouvernement, la politique pardon, du gouvernement dans la lutte contre ces phénomènes. Une autre opinion se demande ce qu'il en est de la deuxième vague du transfert de ces jeunes à Kanyama, à KCC. Alors comment réagissez-vous? Vous pouvez participer à cette émission, bien entendu avec l'ensemble d'internautes sur la toile, en tapant www.radiokapi.net ou encore sur notre page Facebook. Vous pouvez également nous rejoindre directement au 081-890-6330 ou encore au 081-890-4969. Jean-Claude Onsiala assure la mise en onde de cette émission réalisée des mains des maîtres par Marcel Ngombo Mbala sous la coordination et la présentation de J.R. Lungembo Luabung Anji. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Maître Georges Kapamba, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le coordonnateur de la CAJ, vous êtes un activiste des droits de l'homme. Pourquoi aujourd'hui les phénomènes Kuluna continuent à constituer un véritable casse-tête pour les autorités congolaises?
Bon, d'abord il faut préciser que le phénomène Kuluna, c'est un phénomène en réalité qui traduit la criminalité urbaine. Et cela se fait voir aussi dans toutes les villes du monde. Mais ce qui a peut-être à déplorer ici, c'est le fait que la police nationale congolaise a défini une stratégie pour traquer les commanditaires et les meneurs de ces mouvements dans la ville de Kinshasa et dans d'autres villes de la République, mais sans avoir à bénéficier des moyens conséquent auprès du gouvernement. C'est ce qui freine vraiment son travail et qui ne lui permet pas d'éradiquer au maximum les 10 phénomènes.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment un déficit dans la lutte, le déficit de la politique du gouvernement dans la lutte de ces phénomènes?
Bien sûr, nous avons, il y a 5-6 mois en arrière, organisé un plaidoyer public pour demander au gouvernement congolais de redéfinir sa politique de lutte contre la criminalité ou la lutte contre l'insécurité dans des grandes agglomérations, dont la ville de Kinshasa. Et parmi les recommandations importantes, nous avions mentionné la nécessité de donner des moyens matériels, financiers à la police, mais aussi de restructurer un certain nombre de ces services de sécurité pour les rendre plus fiables et plus compétitifs dans la lutte contre ces phénomènes. Mais nous avons constaté que rien n'a été fait jusqu'à ce jour, parce que les crédits budgétaires qui sont alloués à la police sont très modiques et ne peuvent pas permettre à celle-ci d'accomplir convenablement son action.
Alors, lorsqu'il y a eu l'opération Likofi, la plupart des activistes des droits de l'homme sont montés au créneau pour dénoncer cette opération. Finalement, on se rend compte que la société civile n'aide pas l'autorité à pouvoir mener une très bonne politique dans cette affaire.
Non, c'est pas parce que nous avons eu à dénoncer
l'opération
un nombre d'abus. Ce qui a été dénoncé, c'était les abus et pas nécessairement la politique elle-même de lutte contre la criminalité publique. Vous vous rappelez qu'à son temps, celui qui commandait cette opération, l'ancien commissaire provincial
Kanyama,
pour ne pas citer, général Kanyama, il n'avait pas pris des dispositions pour insérer dans sa stratégie de lutte contre le phénomène Kuluna dans la ville de Kinshasa la dimension de protection et respect des droits de l'homme. Mm-hmm. C'est comme ça qu'il a été identifié plusieurs cas d'exécution sommaire, de mauvais traitement. Alors, à ce moment-là, nous devions que lever le ton pour dire que ce n'est pas ça la mission de la police. La police est là principalement pour assurer la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Toute personne qui est soupçonnée d'avoir commis un fait infractionnel doit être interpellée, mais dans le strict respect des droits humains. C'est que le général Kanyama n'avait pas pris en compte. Voilà pourquoi nous avons eu à dénoncer à son temps, exiger une enquête pour qu'il y ait des améliorations.
Alors, lorsqu'on a abandonné l'opération Likofi, on a senti la résurgence de ces phénomènes à travers le pays et même dans certaines parties du territoire national où il n'était pas observé et ce phénomène. Les voix se sont soulevées encore pour demander à ce qu'il y ait des opérations musclées et jusqu'au moment où l'autorité a décidé le transfert de ces Kuluna à Kanyama KCC. Alors comment vous avez réagi par rapport à cette deuxième opération qui consistait à transférer les jeunes à Kanyama?
Non, mais nous avons salué ça, même si c'est vrai que nous avions émis des réserves en ce qui concerne la procédure qui a été utilisée, parce que nous avons senti fondamentalement que c'était les autorités militaires et civiles qui ont eu à piloter, à décider même, alors que cela est de la responsabilité principalement des autorités politico-administratives. Mais bon, par rapport aux résultats, nous pensons que c'était une très bonne chose parce qu'il fallait pas laisser ces jeunes continuer à circuler, à monter des coups contre les autres concitoyens, principalement les femmes et les jeunes filles. Il faut quand même aussi saluer le travail abattu par le général Kasongo avec
son
groupe de commandement ici dans la ville de Kinshasa. Ils ont eu à travailler, à neutraliser plusieurs groupes, plusieurs foyers de Kuluna, ce qui a permis au moins à diminuer sensiblement les cas d'attaque contre des citoyens. Nous avons constaté aussi que depuis un certain temps, ils ont pu mettre en application une bonne stratégie qui a permis de neutraliser ceux qui étaient en train de se livrer au kidnapping, principalement dirigé contre des femmes et des jeunes filles, en utilisant des moyens de transport comme des taxis. Donc, il faut féliciter ce qui a été fait, mais nous sommes conscients qu'ils n'ont pas toujours de moyens, mais aussi ce manque de moyens est constaté même au niveau de la justice, parce que la plupart de ceux qui sont arrêtés, transférés en justice, il y en a qui sont envoyés à la prison. Quelques temps après, ils ressortent, ils se retrouvent encore à la cité. Et bref, ça ne permet pas de consolider déjà les acquis réalisés par l'action de la police. Donc, il faudrait que le gouvernement s'implique davantage et nous espérons que le prochain gouvernement pourra en faire autant.
Alors, parce que vous avez parlé de foyers, de ces phénomènes, lorsque nous observons les derniers événements en date, ce qui s'est passé la semaine dernière au niveau de autour de Camp Faza, voilà. Ouais. Alors là, finalement, peut-on donner raison à ceux qui disent que ces Kuluna se localisent le plus souvent dans les camps militaires, parce que les foyers sont connus, et pourquoi on ne démantèle pas les réseaux au niveau des camps?
Bien sûr, ça, même nous avons dans nos plusieurs enquêtes menées sur terrain constaté que la plupart des Kuluna se recrutent dans des camps militaires. Et même dans notre lettre qui avait été adressée au Premier ministre au mois de septembre de l'année passée, nous avions mentionné cet état des choses. Nous avions aussi mentionné le fait que même certains taxis qui sont mis dans les transports publics sont gérés par un certain nombre d'officiers militaires et qu'il faudrait qu'on applique de manière stricte la loi qui interdit aux militaires, aux policiers de ne pas se livrer au commerce, parce que en achetant un véhicule, vous le mettez dans les transports, vous posez les actes des commerçants. Or, cela leur est interdit. Et nous avons rappelé, c'est de la même manière aussi que dans des provinces minières, nous constatons qu'il y a un certain nombre de d'officiers de la police qui détiennent même des carrés miniers, des concessions dans lesquels ils sont en train même d'exploiter. Donc, il y a tous ces problèmes qui doivent faire l'objet d'études, des solutions doivent être contenues dans une politique pragmatique du gouvernement de manière à ce que ça puisse être cessé. Et s'agissant, par exemple, de la ville de Kinshasa, nous nous sommes rendus compte que même les kidnappings qui se faisaient, la plupart des jeunes, ils se faisaient assister par certains militaires et policiers. Heureusement que le général Kasongo a eu à collaborer avec beaucoup d'ONG de droits de l'homme, comme nous-mêmes. Nous leur avons livré un certain nombre d'informations qui leur ont permis de remonter certaines filières et de neutraliser ces gens qui étaient en train d'alimenter la ville de Kinshasa en Kuluna à des brigands pour s'attaquer principalement aux femmes et aux jeunes filles pour leur arracher leurs bijoux, leurs téléphones.
Alors nous avons été, nous en tout cas, la fin du dernier trimestre de l'année 2020 à Kanyamakasese, nous avons été voir de visu comment vivaient les jeunes Kuluna qui ont été transférés de l'autre côté. Alors ils ont témoigné que la plupart qui sont dans les activités champêtres et qui bénéficient aujourd'hui d'une éducation civique ont adressé même des messages à leurs collègues qui sont à leurs amis, à leurs partenaires qui sont restés à Kinshasa, que c'était une très bonne chose qu'ils soient transférés à Kanyamakasese. Mais depuis, on attendait la deuxième vague. Est-ce que c'est aussi un problème de moyens que le gouvernement ne s'est pas disponibilisé? Parce que nous avons vu, effectivement, il y a un problème d'intrants, il y a un problème de détenus à remettre à tous ces jeunes-là au niveau de Kanyamakasese. Est-ce qu'il n'était pas temps aussi de pouvoir canaliser un fonds, des fonds nécessaires et à donner à ces centres pilotes de Kanyamakasese, initiés par Femmouze Laurent Désiré Kabila?
Il faut savoir que le problème des moyens se fait sentir dans presque tous les secteurs publics, tous les services de l'État. Les gens manquent toujours de moyens. Mais qui sont auteurs de cette situation? C'est principalement les membres du gouvernement. Nous avons constaté que même le gouvernement qui est en train de gérer les affaires courantes aujourd'hui n'a jamais réservé une attention particulière à cette question de lutte contre la criminalité urbaine par la mise à la disposition des services de sécurité de la police des moyens nécessaires. Et c'est ça le vrai problème. Il faudrait que le prochain gouvernement change de méthode et nous faisons confiance au président de la République parce que nous savons qu'il a beaucoup, il a exprimé plusieurs fois ses soucis de voir les moyens qui sont générés par la République, par les trésors publics être utilisés pour le bien du peuple congolais. Et donc, il faudrait que le prochain gouvernement puisse au moins assurer le partage équitable des ressources. Nous avons vu les ministres dans beaucoup de ministères comme ministère des Finances, des Budgets, qui sont en train de s'attribuer beaucoup de sommes d'argent sous le label des primes. Lorsque vous prenez les ministères des Budgets, par exemple, nous avons fait une enquête dernièrement que les ministres puissent se permettre de donner beaucoup d'argent à certains agents au motif qu'ils méritent une prime et que chacun touche jusque même à 10 000 dollars comme prime. Alors que nous avons des problèmes fondamentaux qui sont de nature à engager l'ensemble de la sécurité nationale qui ne sont pas résolus par manque de moyens. Alors là, il y a un problème. Donc, il faudrait que dans les prochains gouvernements,
qu'on puisse repenser
vraiment des
la
ministres
politique.
Qui ont les soucis de pouvoir réserver le peu de moyens que le gouvernement génère à travers ce service générateur de recettes, que ça soit réservé aux programmes prioritaires qui sont des programmes qui peuvent au moins permettre à tous les Congolais de se sentir être protégés. Parce que quand vous payez toujours des primes à quelques individus, ça ne peut pas avoir de l'impact
ça crée des frustrations.
Sur la vie des autres Congolais. Ces primes, mais par rapport à la situation générale, Quel est leur point de vue? Parce que ce service manque de moyens et eux se permettent d'utiliser ces moyens-là pour s'octroyer des primes qui dépassent largement même des taux fixés par les lois des...
Voilà. Merci beaucoup Maître Georges Kapiamba. Nous vous gardons en ligne, il est temps d'écouter les auditeurs qui ont échangé d'ailleurs avec nous sur la page Facebook et qui souhaitent d'ailleurs également intervenir en direct. Gracia est à Kisangani, Christian à Kinshasa, 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs.
Gracia, vous êtes avec nous à Kisangani. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur Gir. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Et pensez-vous, comme l'a dit notre invité, qu'il va falloir repenser la politique de lutte contre la criminalité urbaine dans notre pays?
Bon, moi je pense que pour cette situation, l'éducation des bases est très importante. Et je regrette les côtés qu'ils ont été appuyés par leurs pères armés. C'est qu'un jour, leurs pères armés les appuieront aussi avec des fusils. Vraiment, à cet effet, j'ai fait un constat que la plupart des colons sont résidés dans des camps militaires et ils font ces actes en collaboration avec le militaire de ces camps. Et vous allez voir, dans le même cas, il y a des fumeurs de chanvre. Et ces chanvres sont vendus là-bas à l'intérieur de ces cas, ce qui est à la base de ces actes de vandalisme. Donc, l'État doit jouer son rôle régalien en sécurisant sa population et en prenant en charge ses responsabilités d'encadrer ces jeunes colons, en leur éduquant, en créant des emplois pour eux. Et la police va interdire la vente, et surtout la vente des chanvres, et arrêter toute personne qui le fume. Alors, malheureusement, ces chanvres sont aussi fumés par la plupart des policiers et des militaires, ce qui n'est pas tolérable. Et je crois que l'État doit bien cibler ces colons.
Donc, pour vous, vous estimez qu'ils ont un point commun, c'est le chanvre qui les unit parfois dans cette affaire. Merci beaucoup, Gracia. Alors, Christian, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans la parole aux auditeurs, Christian.
Bonjour, Jerry. Bonjour, l'invité.
Vous avez la parole, Christian. Quelle est votre contribution?
Bon, moi, je crois que cette situation des colons, c'est pratiquement les reflets de la société congolaise. Dans ce sens que certains, les plus risés, sont dans les détournements, la gabegie financière et autres. Et les plus violents sont dans les colons, ils sont dans les gangstérismes. Et donc, en d'autres termes, ce sont ceux-là qui détournent, qui financent, en fait, ce qu'ils font les colons. Parce que les rapports de la police l'ont clairement dit, qu'ils sont appuyés par les pères armés. Donc, en réalité, ils sont appuyés par les militaires. Et donc, nous pouvons dire qu'en d'autres termes, il y a plusieurs tirages de ficelle dans cette histoire. Vous avez des hommes qui sont au gouvernement, vous avez également des militaires. Et du coup, nous craignons que nous puissions plonger dans une situation des soulèvements populaires ou encore dans une situation de guerre civile ici au pays. Cette situation n'est pas seulement à Kinshasa. Déjà à l'époque, je crois en 2009, à Bandundu, après la construction de la prison du cinquantenaire, les gouverneurs de l'époque ont fait demander au gouvernement de lui envoyer quelques colons pour faire la prison là-bas. Et c'est ce qui fut fait. Quelques temps après, il y a eu évasion. Et malheureusement, d'autres colons on préfère rentrer à Kinshasa et d'autres ont préféré rester à Bandundu-Ville. Ceux qui sont restés ont commencé à former d'autres élèves et du coup, ils ont installé leur bastion dans les quartiers qu'on appelle les quartiers Bonkoukou, Salamitaye, Koso. Et là-bas, aujourd'hui, Gilles Lungembo, en 2018, j'ai été à Bandundu. Je vous dis qu'il y a eu plusieurs dégâts. Et tout récemment, je crois en 2020, il y a eu ces colons ont eu à incendier des maisons. Et donc, voyez-vous que ces phénomènes s'étendent de plus en plus et dans les chefs-lieux et même dans des villages, voyez-vous. Et donc, c'est vraiment un problème sociétal. Il faudrait vraiment que tous, comme un seul homme, nous puissions arriver à mettre fin à ces bavures et qui sont en quelque sorte comme étant des pesanteurs de tout développement de notre pays, car nous avons besoin d'une paix durable et beaucoup plus.
Mais qu'est-ce qui ne marche pas, Christian, pour vous? On a essayé avec l'opération Likofi et après ça a suivi donc le transfert de ces jeunes délinquants à Kanyamakassese. Mais alors toutes ces stratégies, c'est comme si ça ne donne pas des résultats escomptés. Pourquoi?
Non, en fait,
pour quelle raison?
Il y a une certaine duplicité dans le chef de sécurité, sont à la fois à la manette de ces genres d'opérations. Déjà ici, lorsque ces derniers, les colonnes ont été envoyées, la dernière fois qui a été envoyée à Kanyamaka, il y a certains commandants qui coopéraient avec les parents des colonnes, moyennant quelque chose pour libérer leurs enfants. Et donc, voyez-vous, déjà, à la genèse, il y a déjà ces problèmes à qui s'est fait sentir. Et même là-bas, à Kanyamaka, nous aurons appris, Jean Lungembo, que ceux qui étaient là-bas commençaient à fouiller pour aller dans le village ou ville.
Oui, oui, Christian, Christian, parce que j'étais là sur place, le général Kassongo, Jean-Pierre Kabuit, qui est le commandant au service national, a même expliqué les choses. Hein. Nous avons vu ces jeunes Kouluna qui avaient tenté de fuir. Ils ont été récupérés chemin faisant avant d'arriver à Moineditou. Donc ils ont été ramenés. Et ils ont même demandé pardon qu'ils n'allaient plus répéter cet acte. Donc en ce moment, nous parlons, 6 mois après, ces jeunes Kouluna, disons, ça donne à des activités champêtres. Et ils suivent, en tout cas, régulièrement, dans chaque compagnie qu'ils ont installée, les cours d'éducation civique et patriotique. Donc il n'y a pas à craindre, ils ont bien évolué. Ils sont très avancés. Je crois que dans les prochains jours, nous allons même faire passer des sons qu'ils ont, des messages qu'ils ont envoyés à leurs amis ici à Kinshasa.
Merci bien pour cette précision d'état. Et sinon, nous allions le travail Kabal et général Kassongo avec les moyens de bord. Il y a quand même des résultats mirobolants. Et donc, ce qui fait que ces genres d'opérations ne puissent pas aboutir, il y a en fait cette duplicité, mais aussi le manque de moyens. Comment voulez-vous réussir à avec ces projets pendant qu'il n'y a pas assez de moyens, pendant que les détourneurs continuent, pendant que les moyens qui devraient normalement être affectés pour ces genres d'activités sont détournées par le privé. Georges Kapiambala a soulevé qu'il y a des primes qui sont données par des gens comme ça pendant qu'il y a des besoins qui nécessitent absolument des moyens. Donc, donner des primes à gauche et pendant que là-bas à droite, il y a un problème.
Un besoin, par exemple, au niveau du service national. Merci
beaucoup.
Je crois
que c'est faire une chose et son contraire. Vraiment, il faut une conscience nationale pour arriver à bout de ces phénomènes colonnagiers.
Merci beaucoup, Christian, d'avoir appelé de Kinshasa. Fernand Mbali. Et bienvenue, vous êtes à Kisangani. Bonjour Fernand.
Bonjour Radio Okapi.
Quelle est votre contribution à ces débats?
Quant à moi, je dirais ceci. D'abord, il faudra savoir que la criminalité liée à l'homme lui-même. Nous ne pouvons jamais finir la criminalité, même sur le plan mondial, tant sur le plan national. Mais certes, nous devons au moins restreindre certains fléaux qui font en sorte que ce phénomène Kouluna, cette criminalité, puisse monter de plus en plus de pourcentage. Par exemple, je dirais, envoyer de jeunes aller faire des travaux champêtres, c'est pas mal, c'est une bonne chose. Mais à mon avis, je pense pas que ça serait une bonne idée. D'abord, le gouvernement devrait penser à une éducation de base, à lutter dès la source de ces fléaux. Parce que même si les Kouluna partaient, on venait notamment de dire ici par celui qui m'a précédé que l'autre fois il y a eu l'opération Likofi. L'opération Likofi qui n'a jamais porté fruit. Même ceux qui sont morts, il y en a d'autres qui sont venus après et qui sont devenus très dangereux, contrairement à ceux qui étaient même auparavant. Alors, il faudrait une politique de base, une politique d'encadrement de la jeunesse. Parce que vous savez, lorsque on n'est pas occupé, lorsqu'on n'a rien à faire, lorsqu'on est dans le chômage, lorsqu'on est dans les misères, certes, on va se lancer dans des choses dont on s'attendait même pas. Mais si, du moins, on était occupé, on avait quelque chose à faire, je ne pense pas que ces jeunes seront toujours dans la rue en train de faire le Kouluna. Tout ça, c'est à cause du manque d'occupation. Il n'y a pas une occupation. Le gouvernement n'a pas pensé comment occuper la jeunesse. Par exemple, c'est pas tout le monde, bien sûr, qui est censé aller à l'école ou aller à l'université. Il y a des jeunes qui se donnent au foot. Quelle est la politique du gouvernement par rapport à cet encadrement pour encadrer la jeunesse du côté football? Il y a des gens qui sont des sportifs, qui font le judo, la boxe, par exemple. Aujourd'hui, si vous regardez en RDC, il n'y a pas du tout une politique solide pour pouvoir booster la jeunesse, pour pouvoir encourager la jeunesse, même pas aller aux études, même se retrouver dans un domaine, par exemple sportif, et aller de l'avant. Il n'y a pas cette politique. Alors le gouvernement devrait plutôt penser, d'abord en premier, mettre de moyens suffisants, de base, pour commencer, dès le bas âge, qu'on encadre le jeune selon ce qu'il veut. Par exemple, il y a des enfants qui ne veulent pas aller à l'école. Il y a des enfants qui font l'école buissonnière. Et ces enfants devraient être encadrés, encadrés petit à petit, l'air éduqué et l'air orienté. Tant qu'il n'y aura pas cette orientation,
on peut... Fernand, mais c'est ce qui explique le choix opéré par les autorités en envoyant le jeune à Kanyamaka. C'est parce que là, finalement, ils ne font pas seulement les activités champêtres, mais ils sont également dans la formation, dans l'encadrement autour de l'éducation civique et patriotique. Et au sortir de ces centres, ils peuvent devenir aussi formateurs et être engagés au service national.
Vous savez, c'est pas un problème. Là, c'est une bonne idée. Mais d'abord, il faut savoir que même si les autorités prenaient toutes ces décisions-là ne servent à rien. Là, je vous dis clairement, ils seront là pendant un certain moment. Ils vont se dire que voilà, nous avons changé. Ils feront semblant lorsqu'ils reviendront, même au sein de la police, parce que déjà l'âge de l'encadrement, il est dépassé. Cet âge-là.
Merci
est
beaucoup.
Dépassé.
Merci beaucoup, Fernand. Parce que nous avons diffusé chez nous.
Vous ne pourrez pas me dire que toutes ces personnes, tous ces gens-là, ils sortiront là-bas, ils seront maintenant des saints. Non, la criminalité, elle est déjà, ils sont déjà devenus de professionnels dans ça. Ils ont grandi dans ça, maintenant c'est un problème. Il faut
Merci beaucoup, Fernand. Merci. Voilà, on ne sera pas allé loin avec vous, Fernand. Alors, on va prendre Franck, mais tout en soulignant qu'effectivement, déjà, la première vague des transferments à Kanyamaka, ça a donné quand même des résultats, parce qu'au niveau de Mbujimayi, il y a des jeunes délinquants qui, en fait, on lançait des messages ces derniers temps pour dire est-ce que ces transferts ne concernent que ceux de Kinshasa, pourquoi pas nous, nous avons aussi besoin de l'encadrement. Mais là encore, il y a le problème des moyens qui se pose, parce que le Kanyamaka CC avec sa capacité ne saura pas contenir, disons, un nombre important de jeunes. Sans moyens, finalement, on n'atteindra pas les résultats. Merci Fernand d'avoir appelé Dembali. Franck, vous êtes à Vienne, en Autriche. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour notre ami Gilles, bonjour à tous les amis fidèles de la radio-capi, bonjour à tous les auditeurs.
Alors pour vous, qu'est-ce qui constitue la difficulté majeure pour avancer dans la lutte contre la criminalité urbaine avec ces jeunes communément appelés Koulouna?
Oui, mon ami Gilles, je crois que si j'ai encore bonne mémoire, on a eu autant de débats sur ce phénomène avec le général Kanyamaka, il était encore là comme ça. Mm-hmm. Nous avions dit autrefois que la situation de Koulouna, c'est un phénomène qui a un soubassement qui nécessite des gammes de dispositions à prendre de manière vraiment sérieuse et conséquente pour l'éradiquer définitivement. Et à voir un peu comment ce phénomène est géré chez nous, c'est comme si on s'attaque seulement à ce qui est manifesté, à certaines conséquences de ces phénomènes, au lieu qu'on s'attaque aux causes. On doit commencer par se demander pourquoi il y a autant de phénomènes. Mais les réponses sont déjà claires. Le phénomène Koulouna émane d'un certain phénomène de clochardisation des parents. Au niveau des familles, les parents ne savent plus encadrer les enfants. Pourquoi les parents ne savent plus encadrer les enfants? C'est parce que l'État ne sait plus mettre à la disposition de chaque parent des moyens adéquats pour subvenir aux besoins de ses enfants. Alors maintenant, c'est un phénomène qui est là devant nous. La solution à trouver pour l'éradiquer, ça doit être une solution transversale. Il faut impliquer les familles, il faut impliquer la société. Dans la société, on ne voit pas seulement les mots société. Dans la société, il y a les écoles, il y a les églises, il y a les associations.
Mais ce travail, Franck, ce travail ne sera pas à court terme, parce que actuellement il y a des dégâts matériels, il y a des pertes en vies humaines, et au quotidien on voit des images à la télé chaque fois, les dégâts causés par ces jeunes délinquants. Mais alors, combien de temps il faut encore prendre pour réfléchir et proposer une bonne politique, parce qu'au lieu de passer directement à la vitesse supérieure?
Mais mon ami Gérard, le problème est là, c'est un feu qui s'allume devant nous. Quand un feu s'allume, quand une maison est installée...
Il faut commencer d'abord par l'éteindre et penser à autre chose après.
Pour stopper ce feu et pour éviter que les mêmes accidents ou les mêmes incidents se produisent encore. Nous avons un problème devant nous, nous avons une justice. Mais quand ces jeunes hommes, quand ces gourous sont arrêtés, quelle est la rigueur que la justice applique pour interpeller les autres? C'est à ce niveau-là. Et c'est comme ça que moi, personnellement, j'ai toujours dit que les problèmes que nous avons chez nous, c'est d'abord un problème d'homme, c'est un problème d'éducation. C'est comme ça que je dis, Dans la gamme des solutions à entrevoir, il faut impliquer la famille, la société et l'État. Il faut que les parents, déjà au niveau de nos familles, arrivent à éduquer convenablement. Parce que de nos jours, si nous devons comparer, nous qui sommes nés vers les années 70, par rapport à ce qui s'apprend de nos jours, mais c'est le jour et la nuit. Dans des écoles,
Mais Franck, que faire de cet enfant qui a déjà raté l'éducation en famille et qui a 25 ans, 30 ans aujourd'hui, mais qui a trouvé, disons, les moyens de survie, c'est la criminalité urbaine. À cet enfant, qu'est-ce qu'on doit faire ce n'est qu'appliquer un rapport de force?
Mon ami Gère, l'homme peut toujours apprendre jusqu'à peu avant sa mort. Donc on peut toujours tenter, c'est difficile, je le sais.
Mais d'autres n'apprendront plus par une approche pédagogique, d'autres n'apprendront qu'avec force.
Si l'État avait une vision claire, si notre État avait une vision claire sur l'encadrement des jeunes, sur l'occupation de ces hommes, on trouverait des solutions à ces problèmes-là. Mais c'est parce que seulement nous avons une jeunesse délaissée, abandonnée à elle-même, et une jeunesse qui souffre de la formation, une jeunesse sans vision, une jeunesse sans perspective. C'est comme ça que beaucoup de jeunes se contentent de ce qu'ils ont. Parce qu'on dit parfois, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. On te promet une formation qu'on ne saura pas t'offrir demain, mais les jeunes se contentent de ce qui peut leur apporter à manger et à boire aujourd'hui. C'est un peu ça la situation.
Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup, Franck.
Il faut la rigueur de la loi.
L'État,
la famille et la société s'impliquent encore.
Voilà. Alors, si je comprends bien, à court terme, il faut la rigueur de la loi et, dans l'avenir, la conscientisation en impliquant également les parents. Merci beaucoup, Franck. Maître Gilbert, on va prendre Maître Gilbert et puis on revient à notre invité. Maître Gilbert, vous êtes avec nous à Kindou?
Oui, bonjour, monsieur J.R. Bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs qui sont en train de m'écouter présentement et immédiatement.
Alors, comment commentez-vous cette actualité?
Oui. Merci beaucoup de m'avoir associé. Quant à moi, je disais que la délinquance, ça devient sur les deux parties. Pour la première partie, ça devient sur les parents. Et la seconde partie, ça devient sur l'État lui-même. Maintenant, pour les parents. Les parents ne savent pas comment bien gérer leurs enfants à partir de la maison, au niveau de la maison. Dès le bas âge, jusqu'à au niveau jusqu'au niveau du majeur. Pourquoi pas? Parce qu'il y a manque d'éducation à la maison. La deuxième chose, il y a l'irresponsabilité des parents pour ne pas bien encadrer leurs enfants. Maintenant, pour l'État. Pour l'État, je disais que l'État, il y a manque des emplois. Et l'État ne voulait pas créer pour les jeunes. C'est pourquoi il y a la délinquance.
Donc, comme Franck l'a dit, on a abandonné les jeunes à leur triste sort. Merci beaucoup, Maître Gilbert.
Oui.
081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Voilà, Maître Georges Kapiamba, vous êtes avec nous en ligne. Vous avez suivi cette longue série des auditeurs. C'est vrai, chacun de nous voit les choses en sa manière, mais finalement, on se rend compte que tous, on a des difficultés pour pouvoir donner des solutions à court terme. Parce que on raisonne l'encadrement à long terme, à l'avenir, mais est-ce qu'il va falloir aujourd'hui, parce qu'il y a des dégâts qui sont causés aujourd'hui, il y a mort d'homme à chaque sortie de ces jeunes délinquants, est-ce qu'il faut trouver réellement une solution à court terme?
Il faut d'abord commencer par féliciter tous les responsables militaires et civils qui encadrent nos jeunes qui sont aujourd'hui à Kanyamakassi, en commençant par le commandant Kasongo. Parce que les travaux qu'ils sont en train d'abattre fait partie des solutions de la stratégie nationale telle que nous le souhaitons tous. Et ça va contribuer à diminuer aussi ou à combattre l'explosion de ces phénomènes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est que, comme certains amis l'ont mentionné, il faut des solutions à court terme parce que pour le moment, il faut mettre fin à ces phénomènes parce que l'État a l'obligation d'assurer la protection des personnes et de leurs biens. Mais l'État ne peut pas y parvenir s'il y a un groupe de jeunes qui pensent que, parce que n'ayant pas été à l'école, n'ayant été abandonnés par leurs parents, ils peuvent, eux, penser trouver leur solution en s'attaquant aux autres compatriotes. Ça, c'est inacceptable. La loi pénale est là, elle doit s'appliquer par rapport à ceux qui se livrent à ce genre d'activité, parce que ce sont des criminels. C'est de cette manière-là qu'on pourra protéger tout le monde. Deuxièmement, mais il faut, tout en réprimant, il faut aussi prendre des dispositions pour récupérer certains qui sont récupérables, ceux qui ne doivent pas aller en prison, parce qu'il ne faut pas envoyer tout le monde en prison. Il faut toujours des sanctions qui peuvent permettre à ces jeunes d'avoir la possibilité de revenir correctement dans la société, de reprendre une vie dans la société. Voilà pourquoi les centres comme celui de Kanyamakassese, nous pensons qu'il doit être dupliqué à travers plusieurs provinces de manière à faire face à ces phénomènes-là. Deuxièmement, il faut, comme nous l'avons mentionné, que le gouvernement maîtrise la collecte des recettes et utilise aussi la redistribution de ces moyens en les injectant dans des programmes d'intérêt commun. On doit savoir choisir les priorités. Et aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc, la sûreté humaine. C'est ce que les Congolais exigent à travers presque toutes les agglomérations de la République démocratique du Congo. C'est l'insécurité, la criminalité qui empêche aux gens de se déplacer comme il se doit et qui expose davantage les femmes et les jeunes filles. Et donc, il faut que le gouvernement donne ses moyens, mais pour que le gouvernement ait ses moyens, tous nous devons aussi nous mobiliser dans la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics, parce que l'État ne peut avoir les moyens si ce phénomène de corruption et de détournement continue à se développer dans notre société. Donc voilà ce que moi je peux donner comme réponse, parce que s'il y a des moyens, à ce moment-là, il faudrait que le gouvernement investisse aussi dans l'éducation. Dans l'éducation à venir, aujourd'hui, il y a la gratuité de l'enseignement, mais il faut consolider ça pour éviter que certains jeunes qui vont se retrouver abandonnés, qui ne sauront pas aller à l'école, puissent choisir d'aller dans la rue pour rejoindre le mouvement des Kulunas et commencer à s'attaquer à leurs compatriotes.
Alors, pour les derniers événements que nous avons évoqués tout à l'heure, est-ce que cela ne nécessitait pas un procès en flagrance? Parce que les pères ont appuyé.
Oui, oui. Ce qui s'est passé les 5 du mois en cours au quartier
Mbaki,
ce sont des faits inacceptables et condamnables. La CAGE nous avons eu à condamner ça. Nous avons exigé que l'auditorat militaire travaille rapidement avec les services de sécurité pour identifier principalement les pères de ces Kulunas qui se sont permis d'apporter leur soutien, leur aide en armes et munitions à leurs enfants qui sont des criminels. Donc c'est une association de malfaiteurs et l'ensemble des membres de cette association de malfaiteurs doivent être identifiés, arrêtés, passés devant les juges pour des sanctions exemplaires. Les militaires doivent savoir respecter les lois de la République. On leur donne les armes. Et les contribuables congolais donnent leurs moyens pour acheter les munitions. C'est pour protéger les personnes et leurs biens et surtout protéger nos frontières. Ils ne doivent pas se permettre d'utiliser abusivement ces munitions et ces armes, comme nous avons vu ce phénomène-là. Nous nous félicitons du fait que le général Kasongo nous avait donné les informations nous rassurant que les meneurs, notamment les commandants second de ces camps, a été arrêté, ainsi qu'un groupe de militaires qui avait été identifié et que les enquêtes se poursuivent pour identifier l'ensemble de la bande qui a agi de cette manière au-dessus de tout le monde pour qu'ils subissent la rigueur de la loi. Et ça, sur ça, nous allons vraiment veiller et nous allons
parce que les gens craignent
pour dire à l'opinion si réellement ces gens-là étaient-ils passés devant les juges et condamnés. Oui, ou bien qu'il y a eu un semblant d'inaction pour les arrêter et puis les libérer, ce qui ne sera pas une bonne chose, parce que ça sera un mauvais message qui sera lancé, surtout aux jeunes Kulunas qui ont bénéficié de leur appui, qui pourront penser qu'à l'avenir, ils pourront encore se comporter de la sorte et rien ne pourra leur arriver.
Alors, parce que la crainte, c'est que le retard dans la déclaration, pardon, l'ouverture du procès, et ça inquiète, ça risque même de passer du temps et que les gens oublient.
Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que dans notre pays, c'est parmi les problèmes qui nous tiennent au cœur, la justice. C'est vrai que la justice a son rythme, mais la justice doit agir aussi de manière, finalement, à répondre aux attentes de la population. Parce que la justice, c'est un service public. Mais le service public doit être aussi productif, doit être réactif. Ce n'est pas pendant qu'on l'attend que la justice s'efface et puis elle va intervenir pendant que tout le monde n'y fera plus attention. À ce moment-là, son impact ne pourra pas être positif. Donc, nous devons tous nous employer, je vous félicite, pour avoir organisé d'ailleurs cette émission qui va permettre davantage d'accentuer la pression, de réveiller les consciences de tout le monde, de nous, les organisations de défense des droits de l'homme et tous les autres. Nous devons nous mobiliser pour demander des comptes aux responsables de la justice. D'abord, en commençant par le commandant PEM, à qui tous les responsables qui ont été arrêtés avaient reçu ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces gens? À quel niveau ils se trouvent? Et la justice, l'auditorat, lorsqu'on vous a amené ces gens, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui a fait que vous n'ayez pas organisé rapidement un procès en flagrance de manière à ce que ça puisse avoir un retentissement voulu par tous et que ça puisse avoir un impact à travers tout le territoire national?
Voilà, maître Georges Kapiamba, nous vous avons retiré de vos obligations là où vous êtes, dans vos occupations. En tout cas, merci de nous avoir accordé ce temps pour échanger également avec les auditeurs. On va poursuivre cette émission, en tout cas à très bientôt, maître Georges.
Merci à vous autant. Merci, bonne journée.
Voilà, alors on va retrouver Amos. Amos, vous êtes à Bukavu. Amos, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre contribution à ces niveaux d'échange?
Au fait, c'est un regret, parce que ce qu'on a suivi dernièrement à Kinshasa, il y a des vidéos qui ont circulé dans les réseaux sociaux, c'était de la honte pour la République. Parce qu'on ne comprend pas comment de Kuluna pouvait recevoir l'appui de nos militaires. C'est très grave et très dangereux hier. On ne sait pas nous allons où finalement. Je suis en train de regretter de constater qu'apparemment le changement est plus théorique que pratique. Dédé, on peut se poser la question, pourquoi nos autorités souvent posent des actions de charme sans aucune planification? Il n'y a pas longtemps, on a suivi qu'il y avait déjà une opération de vouloir traquer tous les Kuluna à Kinshasa et les amener à Kanyamakasese. Mais comment encore expliquer cette question aujourd'hui? Est-ce que l'opération continue? Est-ce que l'opération s'est arrêtée et que c'était une action de charme? J'aimerais que les autorités nous expliquent. Parce que si du moins il y avait une bonne planification par rapport à cette opération, je pense que l'opération devait être continuelle et on ne peut plus vivre une telle mise en scène à Kinshasa. Dédé, je venais de suivre l'invité qui dit non, on a invité le commandant responsable de ce cas-là, est-il qu'il serait déjà aux arrêts? Ça, c'est déjà une bonne chose que nous devons encourager. Mais aussi, tous ces militaires-là qui auraient agi ainsi devaient répondre de leurs actes. Mais aussi, je demande que cette opération-là de vouloir amener tout le couloir de Kinshasa à Kanyamakasese continue pour que demain on ne puisse plus assister à des telles.
Oui, mais c'est pourquoi nous avons dit ici tout à l'heure, avant que vous nous rejoigniez, oui, nous avons dit tout à l'heure, est-ce que ça nécessitait un procès en flagrance? Parce que les vidéos ont circulé, les procureurs et les cours d'ordre militaire devaient déjà se saisir de l'affaire pour que ces gens ne puissent pas passer dans la maille du filet. Parce que finalement, quand la chose va beaucoup traîner, les gens risquent d'oublier.
Tout à fait, hier, il fallait un procès en flagrance, c'est cela qu'on cesse de condamner notre justice, qui souvent semble être manipulée. Elle agit là où on l'attend pas. Et là où on l'attend dans l'extrême urgence, on ne la voit pas. Et c'est très dangereux pour notre pays, hier. Moi, je pense, comme on l'a dit, comme d'autres vont le dire, cette question nécessitait que la justice travaille dans l'extrême urgence et que les sanctions puissent tomber pour qu'on ne puisse pas revenir à de telles les mains ou à des telles images qu'on a vécues dans les réseaux sociaux et qui ont fait la honte de la République.
Alors,
mais toutefois,
oui.
Cela va donner raison, JR, à ceux qui ont pensé que l'opération de Kanyamakase a connu des problèmes sérieux.
C'est juste donc, le problème de moyens. C'est juste le problème de moyens.
Qu'on a amené là,
oui, à mon...
c'était dans de très mauvaises conditions de vie.
Non, non, parce que moi j'ai été là sur place, ils vivent très bien, mais c'est juste question de moyens pour appuyer cette action initiée par le gouvernement, parce qu'il faut vraiment des moyens. Vous l'avez si bien dit, peut-être il y a eu un manque de planification, parce que ça fait plus de six mois maintenant, que depuis que la première vague était partie, mais on se rend compte que la deuxième phase qui était prévue pour ce mois de février, nous sommes déjà à la première quinzaine, à la fin de la première quinzaine du mois de février, aucun signal, aucun signe de côté des autorités qui devaient annoncer la traque de deuxième vague pour qu'on amène aussi à Kanyamakase. Mais néanmoins, nous avons une fois reçu également le commandant du service national qui nous a annoncé qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour que finalement la deuxième vague arrive également à Kanyamakase. Merci beaucoup Amos d'avoir appelé de Bukavu. Alors on prend plutôt ingénieur Pierre Moussafiri, vous êtes à Goma.
Bonjour Gérard et bonjour à tous.
Alors, vous avez la parole. Quelle est votre contribution?
Oui, à mon avis, moi, je pense que transférer ce GNSA Kuluna Kanyamakase, c'est une bonne idée. Mais aussi, la question qui reste à se poser est de savoir si c'est là qui ont été transférés pour, là-bas pour la première vague, s'ils sont bien encadrés. Ou bien c'est pour les éviter, pour aller les jeter ailleurs, comme ça. Pour moi, je dirais que ça, on serait en train de ne rien faire. Monsieur JR, est-ce que pouvez-vous me confirmer l'information qui se tire à l'isac que deux d'entre ces Kuluna qui sont à Kanyamakase, ont été retrouvés en Gandajika, dans le Lomami. Et quand on les a interrogés, ils ont dit que les conditions de vie qu'ils traversent là-bas sont catastrophiques. Ça, c'est un. Et si le commissaire provincial et commandant de la ville de Kinshasa, Sylvano Kasongo, a confirmé qu'ils ont travaillé, ils ont été appuyés par leurs paramilitaires, pourquoi ne pas les poursuivre et les punir? Pour chuter, je veux dire ceci. La responsabilité est toujours du gouvernement d'assurer la sécurité publique, qui recherche comment encadrer ces jeunes accords. Ils méritent aussi la vie comme d'autres, ils ont les droits en créant par exemple des centres d'apprentissage de métiers. C'est ça, monsieur Juel.
Merci beaucoup, ingénieur Pierre.
Parole aux auditeurs.
Voilà, merci beaucoup de votre fidélité à Radio Okapi et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Maître Patti Lendo, vous êtes avec nous en ligne.
Oui, bonjour et bonjour aux auditeurs de la radio Okapi.
Alors, le débat tourne autour de ces phénomènes Kuluna. C'est vrai, le tout dernier événement avec les Kuluna des Kambaki qui sont sortis appuyés par leurs parents, qui sont du reste militaires, et qui ont assommé certains policiers. Alors aujourd'hui, les voix se sont levées pour réclamer les procès en flagrance. Est-ce que ça tient la route?
Oui, mais les procès en flagrance ou les procès publics, il ne faudrait pas que les gens se perdent là-dessus en conjecture. Le procès public n'a de l'impact dans une société que là où le mental collectif existe et lequel mental n'est pas corrompu. Or, tel n'est pas le cas au Congo. On peut multiplier des procès en flagrance, Kuluna, les Wewa, ainsi de suite, les inciviques, même les détourneurs d'argent. Mais est-ce que cela produit l'effet que l'intelligence d'un procès en flagrant produit dans des sociétés normales? Je vous dirais non. Donc le problème des Kuluna n'est pas dans des flagrances, n'est pas dans ceci. Nous devons prendre ce phénomène comme étant une réalité aujourd'hui sociétale. Nous devons mettre nos intelligences pour extirper ces mâles qui rongent tant la société de réalité de la vie. Mais quand je vois la manière dont on s'y prend, ben souvenez-vous, j'ai même vu, ça fait quelques années en arrière, un ministre qui accompagne les Kuluna à l'aéroport. Donc le ministre fait la publicité des inciviques. Ça, c'est quand même une injure. Mais la société s'y était accommodée, la société y a applaudi, c'est malheureux. Le problème Kuluna, je l'ai dit aux auditeurs que cet après-midi, eh bien, nous avons eu à réfléchir là-dessus. Du temps de services spéciaux avec, je crois, le général Moudékéré, si je ne me trompe pas, ou nous ne le trompons pas. Nous y avons pondu une étude que nous leur avons remise, laquelle étude était même publiée dans le journal de la place. Cette étude nous a valu le bonne relation d'un certain capitaine ou major à l'époque, Binoumbi. Nous avons dit quoi dans cette étude sur le phénomène Kuluna? Il ne faudrait pas que nous contentions à embrasser des épiphénomènes au lieu d'attaquer le phénomène. La question, le phénomène Kuluna vient d'où? Mais nous avons un ministère de la Culture et des Arts. Et le ministère de la Culture et des Arts a pour vocation, a pour finalité, l'analyse de la trame comportementale des uns et des autres dans la société. Mais le ministère de la Culture et Arts est où par rapport au phénomène Kuluna? Ça ne le concerne même pas. Et ça, c'est très grave. Il n'est là que pour récolter les taxes ici, les taxes là, et organiser des balais Manianga, balais Pene,
oui,
balais Ngwandi.
Oui, maître Patrick, il s'agit des bandits.
Vraiment, je vais terminer par là.
Il s'agit des bandits urbains.
Oui.
Il s'agit des bandits urbains. Que vient faire la culture là-dedans?
Mais non, ce banditisme urbain peut être retracé dans la trame comportementale. Vous et nous, nous avons nous tous vécu dans cette capitale. Nous n'avons pas vu des jeunes recourir à la machette pour aller égorger, pour aller détruire, pour aller casser. Mais donc, le phénomène peut être retracé dans la comportementalité sociétale. Et qui étudie les comportements dans une société? C'est pas ça le culturel.
Mais on a l'impression que ce phénomène s'est construit sur une durée, et dans le temps, petit à petit. C'est ça qui commence petit et jusqu'aujourd'hui.
C'est ça le mal de ce pays. On n'aborde jamais les problèmes de manière cohérente, de manière efficiente. On s'attarde à faire du spectacle là où il faut apporter des solutions efficaces.
Alors, il y a eu l'opération du COFI. Et par la suite, aujourd'hui, on parle de transfert de ces jeunes à Kanyamakassese. Alors, de l'un ou de l'autre, on se rend compte que finalement, c'est un coup de paix dans l'eau.
Mais est-ce que nous pouvons reconnaître ensemble et de manière courageuse que le phénomène Kuluna, c'est un phénomène d'abord mental? On ne comprend pas l'esprit par la chair. Ah, je vous dis, c'est un problème mental. D'où vient cette mentalité-là? D'où est venu cet esprit-là? C'est là où nous devons chercher les problèmes à y apporter. Vous parlez aujourd'hui de Kanyamakassese. Tant mieux. Mais n'oubliez pas, il y a eu même des Anguinga, où des membres du gouvernement se sont retrouvés à l'aéroport au bout de l'avion pour accompagner des bandits. Ça, c'est quand même grave dans l'histoire de ces pays. Voyez-vous un peu, le problème de Kuluna, il y a trois piliers qu'il faut remettre en état pour remettre ces pays sur le bon rail. Les trois piliers sont lesquels rapidement? La famille. Mais vous avez vu dernièrement au Kamaki, c'est Andolo. Les parents qui soutiennent leurs enfants inciviques. Mais c'est là où nous devons nous poser la question. Donc le phénomène Kuluna emporte en deuxième lieu le ministère de la famille, genre et enfant. Mais c'est l'enfant. Que dit le ministère de la famille, genre et enfant par rapport au phénomène Kuluna? Et Taliban aussi. Et ils attendent le 8 mars. Pour nous remballer avec des idées inutiles et encore emporter le budget de l'État. Si vous ne voulez pas imposer la révolution des intelligences dans ces pays, nous resterons comme ça d'année en année, nous allons emboîter les pas à notre grand frère de Haïti. Donc le premier pilier, la famille. Il faut reconnaître que nous sommes une société sans famille. Quand nous grandîmes, on nous identifia par rapport à nos parents. On nous identifie par rapport à nos éducations chrétiennes. Nous, aujourd'hui, ça n'existe plus. On nous identifie par rapport à nos écoles d'origine. Vous et moi, nous étions au collège Sainte-Anne à Elikia. Mais nous étions quand même des modèles dans nos sociétés. On nous dit des modèles. Je parlais même d'un, je dirais, un Français ramassé. Le modèle-ship est où dans les sociétés? Dans des quartiers. Quel est encore ce jeune homme qui fait la fierté des autres? Quelle est encore cette jeune fille qui peut capter la l'attention des jeunes filles du quartier? Quel est encore ce papa qui, comme nous grandîmes ici, nous jouons des papas Django, des papas colériques, nous jouons des papas Sango. Et nous copions ces exemples-là. C'est ce qui fait que vous et moi, nous sommes différents dans la société. La famille n'existe plus, voyez-vous un peu cela. Le deux. Quittons la famille, premier pilier qui n'existe pas, qu'on doit absolument restaurer. Si nous voulons faire des choses même en méritocratie, comme nous le sommes dans la méritocratie, eh bien la famille n'existe plus. L'absence de la famille fait que les enfants grandissent comme des Romulus et Remus. Le papa, moi-même, j'étais surpris
la génération dans la spontanée.
D'une grande autorité que je ne citerai pas ici. La grande autorité s'étonne de cette... Oh, lui, maître parti, tout le monde aussi de combien il est boué. Le papa, l'autorité du pays, n'a pas suivi l'évolution de la chevelure de son propre enfant.
ce n'est pas de la magie quand même. Les cheveux ne croissent pas par la magie. Mmh. Donc la famille n'existe plus, nous devons restaurer la famille.
Deuxièmement...
Il faut refaire cette histoire des ministères de culture et art. Refaire cette histoire des ministères de genre, famille et enfants. Ce sont des coquilles vides, il faut même vous, si vous voulez les supprimer, au lieu de les laisser dans cette situation-là. Ça bouffe finalement le budget de l'État. Deuxième pilier, l'État, l'école plutôt. Mais l'école est où? Si l'enfant a raté l'éducation au niveau de l'école, nous avons eu des professeurs d'éducation civique. Mmh. Souvenez-vous de notre professeur de morale et religion au collège de Likia, M.
Labelle Oukelo.
Aujourd'hui, la morale est où dans les écoles? Le civisme est où? Et le troisième et dernier pilier, c'est l'État. C'est dans le pilier État qu'on trouve la justice. Mais encore une fois,
voilà, on ne sera pas allé plus loin. Maître Pati.
Donc, quittons le théâtre pour embrasser la bonne gouvernance, rationnelle.
Voilà, je crois qu'il y a la matière, il y a des défis à relever pour les prochains gouvernements qui sortira, sauf imprévu. En tout cas, on connaîtra peut-être les secrets que nous garde le chef de l'État d'un moment à l'autre dans les heures qui vont suivre, peut-être pas dans les jours qui vont suivre. Nous connaîtrons les formateurs qui composera d'ailleurs son gouvernement dans les prochains jours. Et voici le premier chantier à prendre à cœur. Et ça pourrait donner les résultats parce que cette affaire commence à permettre à ce que les voix s'élèvent et réclamer même l'assainissement de nos camps militaires, parce qu'aujourd'hui ça constitue un bastion, ça constitue des foyers, ça constitue même des réfuges. Alors nous allons continuer à nous retrouver, à réfléchir ensemble sur cette question. Jean-Claude Tiala était à la mise en onde de cette émission réalisée de main de maître par Marcel Ngombombala et coordonnée présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. À très bientôt pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.